l'autre radio en direct du festival Le Chaînon Manquant. C'est de 19h30 à 20h30.
Bienvenue amis auditeurs en direct ici du 40 pour vous présenter cette 34e édition du festival Le Chaînon Manquant qui se déroule jusqu'à ce dimanche à Laval. On va passer une heure ensemble pour découvrir celles et ceux qui font ce festival, de la programmation aux représentations. Nous avons échangé avec des artistes, programmateurs, et puis bien sûr des gens du festival Le Chaînon Manquant. Plus de 70 compagnies sont présentes. Pierre, bonsoir.
Bonsoir François.
Tu vas m'accompagner pendant 7 heures ?
Avec plaisir. Dans ce hall, vous avez l'ambiance.
Exactement.
L'ambiance du théâtre juste avant de rentrer dans une salle.
C'est la soirée des régions, a priori.
C'est la soirée des régions.
Et je crois que chaque région doit ramener une petite chose à déguster, une petite chose à boire, à manger. Donc c'est plutôt sympathique. Et donc les gens se rencontrent et discutent entre eux. Et on a la chance, bien sûr, d'avoir avec nous la co-directrice Florence. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis avec Kevin, le co-directeur, pardon, programmateur.
Exactement. Co-directeur. En charge de l'artistique.
En charge de l'artistique,
et de la,
exactement.
Et, de la,
et que vous connaissez bien.
De la
vous...
truc réseau, il y a un truc réseau, non.
Vous les connaissez bien parce
que de l'animation réseau aussi.
De l'animation réseau. Vous avez l'habitude, puisque vous les entendez sur le 3 radio régulièrement. Voilà, de...
oui,
on va parler un petit peu avec vous. Comment vous allez déjà, après deux jours déjà de festival, ça va?
Bah, on est lancé là. On est lancé. Enfin, moi, je me sens en forme.
Ouais.
Ouais, ça va très bien.
Ça va.
Et vous,
Florence?
On se voit, c'est le truc de co-direction.
Pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et expliquer un petit peu cette histoire du chaînon et un petit peu comment il fonctionne et qu'est-ce que le chaînon manquant, Florence?
Ouais. Oui. Alors effectivement, le festival du chaînon manquant, c'est un festival qui est organisé par un réseau national dont l'objectif est le repérage de la création émergente. Le festival du chaînon manquant, c'est un tremplin pour 65 compagnies que l'on accueille cette année. C'est un tremplin de visibilité auprès de nos adhérents, d'un public donc professionnel, mais pas que. Le festival du chaînon manquant, c'est un moment où se croisent des publics extrêmement différents, du jeune public, des personnes de la médiation, des bénévoles, des artistes, des professionnels, et les Lavallois et les Lavalloises qui sont évidemment invités à découvrir tous les spectacles. Et ensuite, ces artistes, on les accompagne jusqu'à l'organisation des tournées dans nos salles adhérentes. Donc en fait, on est un réseau unique en France qui va de l'accompagnement du repérage jusqu'à la diffusion des œuvres artistiques que l'on accompagne.
Les compagnies que j'ai pu croiser tout à l'heure disent qu'il faut faire le chaînon, il faut passer par le chaînon,
oui.
C'est un vrai tremplin, ça peut assurer jusqu'à 50, 60 dates derrière.
Même non, plus
Kevin,
que ça, ouais.
Ouais, c'est pas garanti, mais en fait, c'est un des seuls moyens de pouvoir montrer son spectacle à l'heure d'aujourd'hui sans hypothéquer sa maison et la maison de ses parents ou pour aller à Avignon ou à Paris. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'une seule alternative, en fait, puisque les artistes sont rémunérés, ils sont défrayés,
ouais.
On les accueille techniquement,
dans des vraies conditions,
on les loge, etc. C'est-à-dire, venir au chaînon, ça leur coûte quasiment rien. Et ils vont se retrouver à jouer devant au minimum 70 pros, au maximum, ça va être 150, 160. Donc, un spectacle qui est bon et présenté dans de bonnes conditions, bah, il peut effectivement claquer ses 60, 70 représentations.
Ouais. Combien d'adhérents sont présents là et de programmateurs sur l'ensemble des 5 jours à Laval?
On a
246 adhérents.
Exactement.
Qui sont présents, plus des programmateurs non adhérents, ils sont une cinquantaine, donc là on a 300 vraiment acheteurs de spectacles.
Okay. Ouais. Est-ce qu'il y a une couleur artistique tous les ans quand on choisit les compagnies ou pas du tout?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a la couleur des régions en fait. En fait, la force du chaînon, c'est que c'est une programmation qui vient des régions. En fait, le repérage, il se fait au fin fond des territoires. Il se fait au fin fond, voilà, ça va être un spectacle qui vient de la Manche, un spectacle qui vient du fin fond de l'Alsace, un spectacle qui va... Voilà, et c'est ça la couleur, c'est-à-dire qu'on va avoir des spectacles qu'on ne peut pas avoir, qui ne sont pas dans une espèce de norme nationale ou une espèce d'esthétique nationale pour plaire, en fait, etc. Ils ont leur particularité vraiment culturelle.
Toi, Kevin, tu vois tous les spectacles ou non, justement, il y a ces spectacles en région que...
Non, je vois tous les spectacles.
Tu vois tous les spectacles.
Ouais, en tout cas, c'est-à-dire que nos adhérents, donc ils sont à peu près 400, ils font une sélection. Au total, cette année, par exemple, ils ont fait une sélection de 126 spectacles que j'ai vus.
Okay.
J'ai vu les 126 spectacles. Et sur les 126 spectacles, nous, et je dis bien nous, avons sélectionné 31. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul. Je leur dis, je leur donne un peu mon point de vue, la manière. On débat, on discute et on sélectionne ensemble 31 spectacles. Et puis moi, je vais aller chercher d'autres spectacles ailleurs en complément, notamment sur des disciplines sur lesquelles qui sont pas forcément sorties des régions. Par exemple, l'humour. C'est vrai que, bon, c'est pas qu'ils n'ont pas d'humour, mais c'est vrai que l'humour est concentré dans les grandes villes.
Ouais.
Les principaux créateurs d'humour, ils sont vraiment à Paris, éventuellement à Lyon, etc., pour pouvoir réussir. Bon, pareil pour la musique, en fait. Nous, nos adhérents, ils ont du mal à repérer la musique. C'est pas si simple que ça. Et ils se concentrent beaucoup sur le théâtre, sur la danse, sur le jeune public, énormément.
Okay. Et il y a une volonté d'aller aussi à l'international, parce qu'on a des compagnies qui viennent de l'étranger.
Alors, c'est pas qu'il y a une volonté, c'est qu'en fait, on est dragué par l'international. Non, mais c'est vraiment le cas.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est des pays qui viennent nous voir en disant on veut venir au Chénon, et limite, on vous dit on vous achète des places au Chénon.
Bon. C'est récent ça, alors, ou ça a toujours existé, ou ça se construit
ça a déjà existé, c'est-à-dire avec un partenariat très intelligent mené avec le Canada, avec Musique Action et la SODEC et le Québec, où effectivement, eux ont un marché francophone extrêmement fermé et ont décidé déjà de développer l'histoire en fait avec le Chénon, avec le Printemps de Bourges, donc ça c'est. Mais depuis effectivement maintenant 7-8 ans, vu l'impact qu'on a sur un certain type de professionnels, effectivement on a été dragouillé par différents. Alors dragouillé, mais en même temps dans le bon sens, c'est-à-dire que quand la Belgique nous dit on aime ce que vous faites, est-ce que des spectacles chez nous vous intéressent, et nous on dit carrément, ouais, grave, parce qu'il y a des putains de spectacles là-bas. On dit à fond. Le Luxembourg pareil, on dit nous voilà, on est un petit pays, mais on a quand même des spectacles, etc. On dit montrez, on voit, etc. Pas mal, ouais, ok, on y va, on les montre. Alors il y a un partenariat financier qui s'engage, mais qui heureusement nous aide et nous sauve même face au désengagement total des Pays de la Loire qu'on a eu cette année. Donc heureusement qu'on avait ces partenariats étrangers pour pouvoir faire face à ça, quoi.
J'allais venir justement à ce modèle économique qui reste très fragile. Florence, on est d'accord, c'est, alors je sais pas si le chiffre est bon, mais moins 160 000 euros de la région des Pays de la Loire.
161 500 euros.
Voilà, pour être vraiment précis. Ça, c'est le coup près qui tombe fin d'année 2024 et avec lequel il faut tout réorganiser, tout, alors que la machine est lancée pour l'édition de...
Oui. Elle n'est pas tout à fait lancée, mais oui, là, ça nous en vient. Au contraire, on arrive dans un timing où on peut vraiment réfléchir et voir, etc. Mais quand même, un cinquième, théoriquement, on ne survit pas à ça, quoi.
C'est ma question. Ça fragilise forcément. Est-ce que du coup, ça met en péril ? Est-ce que là, l'édition est lancée ? Est-ce que ça met en péril les éditions à venir ?
Alors, en fait, ce qui nous... On a pris le temps de réfléchir, effectivement, à un modèle économique qui serait pérenne. C'est-à-dire que l'année 2025 n'est pas une année exceptionnelle. Le modèle que l'on a instauré pour ce festival sera pérenne sur les années suivantes.
D'accord.
Le modèle, le levier était assez simple. C'était à la fois de faire des économies et aussi, la grande force du Chénon, c'est d'avoir justement une part d'autofinancement très importante par rapport à d'autres associations. Cet autofinancement, il vient de trois leviers, la billetterie du festival, la cotisation de nos adhérents auprès du réseau, et enfin justement la recette des tournées. Quand on organise des tournées chez nos adhérents, on prélève une petite partie de cotisation.
Voilà.
Donc en fait, on a des leviers d'économie qui étaient malheureusement la suppression du score de Boston. Le score de Boston, c'était un gros budget, c'était 60 000 euros.
Okay.
Et ces recettes supplémentaires qui nous ont permis du coup de compenser un peu de compenser la baisse, ce sera clairement le dernier coup de sabre que l'on pourra encaisser. C'est-à-dire que le modèle actuel permet de pérenniser les emplois, de conserver quand même suffisamment de spectacles pour donner à voir tant au Lavallois que pour faire tourner dans notre réseau. S'il y avait une prochaine baisse de subvention ou un prochain... Là, on serait obligé d'attaquer, je dirais, le dur du cœur du projet.
Mais ça ne sera pas supportable.
Ça ne sera pas supportable pour l'équipe.
D'accord. Je reviens sur le Square de Boston. On avait échangé souvent avec Kevin sur le fait que c'était un lieu central et qui était un lieu aussi ouvert au public, au Lavallois.
Ouais.
Parce qu'on avait l'impression aussi que ce festival pouvait parfois être un peu que de programmateurs et pas ouvert en tout cas sur la ville. Là, le fait de le supprimer, est-ce qu'on perd pas un petit peu justement cette âme-là ? Et où est-ce que vous avez imaginé justement des...
Ah non, mais c'était un crève-cœur, je me permets Kevin, mais effectivement, ça fait à peu près 3 ans, enfin depuis que je suis arrivé à la co-direction du festival, c'était mon objectif, c'était d'ouvrir ce festival, de lui vraiment d'incarner... d'être un rendez-vous Lavallois, un rendez-vous mayennais vraiment fort, autant que les trois éléphants. Enfin, il y a quelque chose où les Lavallois s'approprient cet espace. On avait ouvert physiquement le Square de Boston pour qu'il y ait un bar, pour que les gens sortent du manège et aillent ensuite dans le chapiteau. Et ça, on commençait enfin à le voir quand il a fallu effectivement arrêter et supprimer ce Square. Donc, on est un peu... moi, je suis très attentive cette année à la façon dont les habitants vont réagir, à la façon dont j'espère qu'on va pas complètement disparaître. Alors on a pris le parti de continuer à investir ce soir. Il y aura un spectacle vendredi soir, Fuego sur le Square, donc on tenait quand même à être physiquement présent, et on espère que notre QG au théâtre et le fait que les gens puissent nous retrouver permettra quand même de garder un peu de visibilité. Mais c'est certain, il y a un avant et il y aura un après. On espère que tout le monde va s'habituer à cette nouvelle configuration, va nous suivre et nous soutenir en continuant d'effectivement d'aller voir les spectacles.
C'est vrai. Et puis il y a cette volonté vraiment de réinvestir la rue, quoi, d'avoir vraiment des projets vraiment d'envergure dans la rue. C'est Cap Fuego, tu viens de le dire.
Et de
il y a aussi Fantôme avec le théâtre, voilà, qu'on a cofinancé ensemble. Parce que Fantôme, c'est un spectacle en fait que ni le théâtre ni nous en fait aurions pu accueillir tout seul.
D'accord.
On s'est mis tous les deux en fait pour l'accueillir, qui est une espèce de fresque assez incroyable, une sorte de ciné-concert avec des pop-up un peu marionnettiques, enfin des trucs un peu dingues, qui jouera samedi donc à 21h. Et c'est un espèce de phénomène dans le circuit rue. Voilà, ça a fait le Hind d'Aurillac, c'est un truc exceptionnel. Et voilà, toute une programmation à la Périne et tout ça. Enfin voilà, il y a le pari de faire, de revenir aussi dans la rue et de revenir sur une accessibilité directe.
Exactement.
Tu disais, Florence, c'est un festival pour les Lavallois. Comment vous avez réussi à concilier, Kevin et toi, mais toute l'équipe du Chaînon Manquant, un spectacle pour des yeux et des oreilles averties comme les professionnels, tout en plaisant au grand public? Comment c'est faisable, ce challenge?
Alors, écoute, c'est une bonne question, effectivement. Mais en fait, tout simplement parce que quand un spectacle il est bon, en fait, il est regardable par tout le monde.
Par tout le monde.
Tu vois, c'est-à-dire que on n'est pas, nos professionnels, ce sont des théâtres municipaux, des centres culturels, c'est des théâtres qui sont généralement dans des villes de 5000, entre 5000 et 20000 habitants, ou dans des zones périurbaines de grandes villes, ou alors en milieu rural. Et donc c'est des gens qui, enfin en tout cas, ils ont besoin de spectacles vraiment accessibles. Nous, on n'est pas dans le circuit des créateurs, des CCN, des centres chorégraphiques, des CDN, des centres dramatiques, des scènes nationales, qui ont une mission vraiment de création de pointe, mais avec des spectacles qui parfois sont un peu compliqués à comprendre.
Ouais.
Voilà. Moi, je le comprends et j'encourage complètement et je loue l'État français de pouvoir accompagner, etc. Mais de l'autre côté, on a aussi besoin de spectacles en fait qui sont facilement accessibles et qui ont une forme d'exigence, mais qui sont là aussi pour donner des clés très facilement, très immédiatement à des gens qui n'ont pas l'éducation forcément. Et donc, on est totalement sur ce genre de spectacle. Donc, pour répondre à ta question, c'était très simple parce que les spectacles qu'on visait, c'est des spectacles qui touchent direct.
Sont déjà dans cette veine-là.
Et en plus, je dirais que c'est un bon indicateur pour nos programmateurs parce que de voir que le public réagit bien. Quand tu es dans une salle et qu'il y a des enfants qui sont là parce qu'on se débrouille, effectivement, par exemple, pour les spectacles jeunes publics, pour qu'il y ait des actions de médiation qui fassent qu'il y ait des enfants qui soient là. Si les enfants réagissent, c'est bon signe. Donc en fait, notre public, c'est aussi le baromètre des programmateurs. C'est-à-dire que si ça marche avec le public Lavallois, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez eux. Donc j'irais au contraire, c'est-à-dire que le public est un levier aussi.
Et dès le départ, vous l'avez pensé de cette manière?
Complètement.
Ouvert à tous?
Exactement.
Oui, bien sûr. Après, ça s'est fait en pied, c'est la 34e édition, donc il y a eu des gens bien avant nous, et ça fait... Ah. Monsieur le maire.
Bonjour,
monsieur
le maire. Berko,
monsieur le maire qui passe, qui nous salue.
On est dans la réserve.
Salut Florian. Check.
On allait aborder le soutien de la municipalité.
On ne peut pas parler. On en parlera en avril.
Non, mais du coup, il y a cette volonté, en tout cas, d'aller vers les Lavallois et de leur offrir, en tout cas, des spectacles pendant ces 5 jours, et notamment sur la partie du week-end, où il y a pas mal de spectacles pour le public. C'est peut-être un peu plus réservé la semaine aux programmateurs. Et encore.
Programmateur et scolaire. Finalement.
Et scolaire. Oui, parce alors il y a un contrat avec les scolaires, c'est intéressant. Qu'on puisse en parler.
On est entre, selon les années et selon les spectacles, on est entre 1500 et 2000 scolaires accueillis. Hein.
D'accord.
C'est un peu cool, c'est un gros travail qui est mené. Et en fait, c'est aussi la base un peu que ça. Parce que nos adhérents, en fait, c'est des gens qui travaillent aussi avec un public qui n'est pas acquis. Ils sont pas dans le centre-ville en fait d'une grande ville avec un abonnement qui est facile, etc. C'est des gens, donc il faut qu'ils aillent chercher leur public. Alors, ils vont le chercher à droite à gauche, mais une des manières qui est faite depuis maintenant quelques décennies, c'est d'aller chercher les gamins et de leur dire voilà, et de les sensibiliser dès en fait leur jeune âge en fait au spectacle. Comme ça, quand ils arrivent à 20 ans, ils disent bah moi je peux aller dans un théâtre, il y a pas de souci, je peux le faire. Et nous, nos adhérents, ils travaillent là-dessus. Donc du coup, nos spectacles sont beaucoup axés sur ce type de public.
Est-ce que vous avez un coup de cœur dans cette édition? Est-ce que vous avez le droit de le dire? Ou alors
non,
c'est vos enfants?
J'ai un devoir de réserve.
Mais tous les spectacles sont coup de cœur.
Non, mais en fait, moi j'ai envie de parler de Fantôme parce que c'est un peu le pari qu'on a. Et puis c'est surtout
grand pari, Fantôme.
Bah, c'est un pari, et c'est un pari aussi à contre-courant de ce qui se fait à l'heure d'aujourd'hui. Fantôme, c'est un spectacle. Qui est une sorte de ciné-concert, qui est un truc un peu chelou, avec des espèces de marionnettes qui arrivent, plein de surprises, des trucs qui va raconter l'histoire d'un gamin qui involontairement va déstabiliser en fait une dictature, et tout ça c'est présenté à 21h sur la place du Château Neuf. Il y a un truc qui théoriquement en fait, et puis surtout qui est qui est compliqué à l'heure d'aujourd'hui à financer et puis à accueillir. Et surtout, voilà, ce genre de spectacle avec cette exigence artistique, cette qualité artistique, en fait, de le présenter en gratuit, bah, j'ai un peu peur que malheureusement, dans les années à venir, ça ne sera plus possible. Donc là, il y a un truc un peu militant, un peu voilà, qu'on a fait avec Pierre Jamais du théâtre, de s'autoriser à le faire.
Alors, Pierre, tu me parlais juste en antenne, il me disait maman, mais a priori j'ai entendu dire que la ville de Tours faisait éventuellement rester de rattraper
ses noms. Est-ce que ça va rester à Laval tout le temps?
Est-ce que ça va rester à Laval tout le temps?
Oui, mais il n'y a pas que Tours, il y a aussi New York.
Il y a New York qui est
New York, on n'avait pas New York.
Los Angeles. Parce que l'histoire, c'est que ça s'est installé temporairement à Laval et c'est resté.
Non, mais voilà, c'est ça. Et on voulait savoir si on a la chance de pouvoir d'avoir le chaînon.
C'est une légende urbaine.
C'est une légende urbaine.
En fait, oui et non. C'est-à-dire que le chaînon, quand il s'est pointé, effectivement, à Laval, c'était un peu. Plan de sauvetage quand même. Ouais. Arrivé à Laval il y a 14 ans, c'était 14 plan de sauvetage. Ans. C'était un peu, chez nous, on n'était pas très en forme. Et clairement, les Pays de la Loire, à l'époque en tout cas, et la ville de Laval ont sauvé le chez nous à ce moment-là. Et c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, le deal s'est dit, bon, on essaye sur 3 ans et puis on y va. Quoi. Et après, petit à petit, en fait, on a pris notre place. Ça n'a pas été simple parce que le Lavallois, le Mayennais demande vraiment qu'on fasse preuve. Et je pense qu'au bout de 5-6 ans, on a commencé à faire preuve, on a commencé, etc. Il y a une communauté qui s'est créée, une communauté de bénévoles. Ils sont 250 bénévoles à venir chaque année, en fait, et c'est les mêmes. Ils se revoient une fois par an, ils viennent chaque année. Ils sont incroyables, ils sont ultra motivés. Et puis, finalement, la chose s'est installée. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que si on faisait un référendum en fait, pour demander en fait, aux Lavallois si le chaînon peut partir, je dirais non, je crois. Enfin, j'ai l'impression que marque.
Il est identifié à Laval.
Ouais, ça marque c'est un temps de rentrée, quoi. Voilà, on reprend la rentrée avec le plaisir d'avoir le chaînon manquant.
Oui, je crois que les Mayennais aiment les rendez-vous.
Ouais. Et celui-ci est bien marqué dans le calendrier.
Je crois que celui-ci maintenant
est vraiment
marqué.
Il est incontournable. On est bien d'accord. Donc c'est pour ça qu'on est content que vous restiez. En cas ça soit une légende urbaine.
Il n'y a pas d'OPA.
Le dernier festival de l'été.
Voilà. Juste pour terminer, parce que je vois l'heure qui tourne. Kevin, est-ce que tu as une question pour Florence? Florence, est-ce que tu as une question pour Kevin?
Florence, c'est ma dernière année. Est-ce que tu penses que j'ai fait du bon boulot?
Florence, réponse.
Oui. Non, évidemment que tu as fait un excellent travail, preuve en est. Le nombre de représentations et de tournées dans notre cher réseau ne fait qu'augmenter. Donc oui, j'en suis convaincue. En tout cas, merci à toi.
Est-ce que j'ai pas été trop pénible?
Non, pas du tout. Je vais pleurer là, parce qu'en fait, on est dans l'émotion du départ de Kevin depuis tout à l'heure. Et voilà. Et en tout cas, je voulais te remercier vraiment très sincèrement de cette collaboration.
Ouais. Excusez-nous, hein.
Non, mais c'est voilà.
On a récupéré l'antenne.
C'est bonne dernière édition, du coup, Kevin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Et de rester vivant.
Ah bah déjà, oui, c'est déjà pas mal.
Déjà, c'est voilà, moi ça me suffira.
Super, merci à tous les deux.
Moi je remercie aussi Kevin parce qu'à chaque fois il est venu sur les émissions sur le chaînon et on a partagé toujours des bons moments. Donc merci
avec
beaucoup
grand plaisir
d'avoir joué le jeu, en tout cas d'être venu sur l'autre radio et présenter le chaînon à chaque fois.
Avec grand plaisir, parce que sans déconner, en fait, vous êtes quand même le seul média à offrir autant de temps en fait sur le chaînon. Et puis on peut se poser, on fait des émissions d'une heure, on peut vraiment parler de la prog, etc. Sans déconner. Enfin, il n'y a pas d'autres médias, ils sont cool. Et puis ils ont leur.
On aura entendu votre voix quasiment toute la semaine et c'est génial.
Ils ont leur obligation, etc. Mais vous prenez le temps et on peut avoir quelque chose de détaillé et enfin vraiment expliquer vraiment pourquoi on fait tout ça.
Je suis très fier du projet que l'on monte aussi avec le syndrome du chaînon.
Qui va avoir lieu 2025-2026, qui va prendre place dans la grille d'antenne sur l'autre radio. Une superbe émission en collaboration avec le collectif Santé Mentale 53.
Et c'est pour quand la première?
Alors les premières sont déjà enregistrées, puis elles vont arriver peu à peu. On va se caler une première date. Donc des questions autour du théâtre et de la santé mentale.
Exactement.
Interviewées par des jeunes justement qui souffrent de certains troubles.
Hâte de découvrir tout ça et bravo pour ce projet. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et on vous laisse profiter de la soirée.
On est ensemble jusqu'à 20h30 sur l'autre radio, soit 1.7 à Laval, 107.9 à Château-Gontier, sur le DAB+ depuis quelques jours.
On reçoit des programmateurs juste après.
Et puis sur l'autreradio.fr. Ouais. Dans quelques instants, on reçoit des programmateurs. Camille Nicole sera avec nous, programmatrice au Pays de Cran. Et puis Bruno Robitaille qui lui vient du Canada. Il nous en parlait, Kevin, tout à l'heure, que ça s'est ouvert à l'international. Mais pour le moment, musique avec Oscar Les Vacances et le titre Alexandre. Ils sont cette semaine, ce soir au 6 par 4, c'est ça Florence?
Ce soir
au 6 par 4.
Tout à fait, ce soir.
C'est ça Kevin. Et là, on les écoute tout de suite sur l'autre radio.
À minuit.
Je t'ai fait croire que je m'emballais, triste histoire, mais c'est la vie. Sur toi j'ai pleuré, pleuré, sur moi t'as médi, médi. La fin du monde en pyjama,
J'aurais voulu crier jusqu'à te rendre sourd, mais j'étais muet comme un caplan. J'ai pas compris qu'il y avait un compte à rebours. Alexandre, Alexandre, Alexandre. Putain, c'était pire que la Black Lodge dans ta salle de bain. Action Man sous la gorge, poteau numéro 1. Tes paroles, c'est l'hémorragie. Plus mal qu'un coup dans les reins et qu'un arabe qui rit. Les mercredis soirs, j'allais chez toi. On faisait la guerre, Yamakasi, hélicoptère, Tamagotchi. T'étais mon meilleur ami, STP. Pourquoi tu m'as dit que tu faisais semblant de jouer, que tu faisais semblant de m'aimer bien, que je viendrai plus les mercredis, qu'on ferait plus jamais copain, copain. Alexandre, putain, c'était pire que la Black Lodge dans ta salle de bain. Action Man sous la gorge, poteau numéro 1. Tes paroles, c'est l'hémorragie. Plus mal qu'un coup dans les reins et qu'un marin qui rit. Poteau, t'es dans mon corazon, t'es dans mon FOMO, t'es dans mes visions, t'as été mon bro, j'ai pas fait semblant. Quand on rigolait, je rigolais vraiment. Avec toi j'étais libre, je me sentais vivant, j'étais invincible, on avait 8 ans. Dis-moi, refrain, si tu l'as pensé pour de vrai, que tu faisais semblant de jouer, que tu faisais semblant de m'aimer bien, que je viendrai plus les mercredis, qu'on ferait plus jamais copain, copain. Alexandre, putain, c'était pire que la Black Lodge dans ta salle de bain. Action Man sous la gorge, un poteau numéro 1. Tes paroles, c'est l'hémorragie. Plus mal qu'un coup dans les reins et qu'un narin qui rit.
En direct du 40 pour cette émission jusqu'à 20h30 avec François en co-animation. Merci François d'être avec nous pour cette édition du Chaînon, cette 34e édition.
34e
et
déjà.
Cette émission spéciale sur l'autre radio 101.7 et 107.9 pour nous suivre. Nos invités qui viennent d'arriver en studio sont Camille Nicole, chargée de programmation du Pays de Cran. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour Camille.
Ça va bien ?
Ça va très bien.
Ce début de festival se passe bien ?
Ouais, ça se passe plutôt pas mal, ouais.
Super. Avec nous aussi Bruno Robitaille, professionnel qui nous vient tout droit du Canada et qui est un peu le représentant du Chaînon là-bas sur place outre-Atlantique.
Tout à fait.
Bonsoir Bruno.
Bonsoir. Merci de m'accueillir.
Ça va bien aussi.
Merci d'être avec nous.
Merci pour votre venue dans le studio. Le trajet s'est bien passé depuis le Canada?
Oui, le trajet s'est très bien passé. C'est quelque chose. Hein? On part une nuit blanche finalement. On part le dimanche, dans mon cas.
Oui.
Et on arrive le lundi fin d'après-midi sans nuiter, si on veut.
Ouais. Et donc, ça a démarré sur les chapeaux de roue depuis hier, le Chaînon manquant. Vous avez pu assister déjà à deux, trois spectacles qui vous ont plu?
Pas encore, mais
pas
j'y
encore.
Vais tout de suite après l'entrevue, j'y accours.
Eh bien, super. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux, Camille et Bruno?
Ben, on a fait connaissance tout à l'heure, mais sinon... Non.
Alors, je vais vous demander un exercice. Comment, Camille, tu présenterais Bruno à travers la petite discussion que tu as eue avec lui?
Eh bien, Bruno a l'air d'être quelqu'un de très sympathique, en tout cas, qui donc vient depuis 10 ans, qui fait la correspondance entre le Chaînon et le Canada depuis une dizaine d'années. Et il est toujours là, donc ça veut dire qu'il est motivé.
Et Bruno, qu'est-ce que tu as retenu de ta petite discussion avec Camille juste avant de prendre l'antenne?
Ben Camille, elle est très sympa également. Et ça fait 6 ans maintenant qu'elle est chargée de programmation en Mayenne, un petit peu au sud d'ici, un petit peu au sud de Laval.
Exactement. Ouais,
sud Mayenne, on va dire. En parlant de cette correspondance, justement, Bruno, à quoi ça correspond cette correspondance justement avec le Canada et le Chaînon? Et comment ça a commencé cette histoire?
Ben écoutez, on travaille à la diffusion des spectacles localement en France, mais au Canada, c'est la même chose. Et puis, le évidemment, pour nous, au Canada, c'est vraiment un grand intérêt pour les artistes de découvrir la France et d'y tourner, on l'espère. Et ça fait maintenant 25 ans qu'il y a un partenariat entre D'accord. le Canada et le réseau Chaînon et le Chaînon manquant pour cette circulation d'artistes canadiens vers la France.
Comment se passe le repérage justement au Canada? Est-ce qu'il y a le même fonctionnement qu'en France? Enfin, comment voilà, les artistes sont repérés? Est-ce que c'est toi qui repères l'ensemble des artistes? Avec qui tu travailles sur place? Enfin...
C'est mon rôle. C'est à moi de repérer les artistes canadiens. En même temps, ce qui est super, c'est qu'il y a des membres du bureau du Chaînon manquant qui viennent régulièrement au Canada également. D'accord. Alors, okay. on travaille de façon organique. Ensemble, en comité de sélection, si on veut, pour choisir ces 3 ou 4 artistes qui viennent en vitrine ici, en spectacle au Chaînon manquant.
Après, tu travailles, j'imagine, en collaboration avec Kevin très étroitement pour lui faire remonter un petit peu.
Ouais. Tout à fait, avec la direction artistique du Chaînon manquant.
OK, très bien.
Camille, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu pioches, toi, tes spectacles pour la programmation du Pays de Cran? Comment ça se passe concrètement, finalement, ton rôle de programmatrice quand tu te balades dans le Chaînon manquant?
Oui, bah, concrètement, on va voir beaucoup de spectacles. Hein. On se fait des bonnes journées de 6 à 7 spectacles par jour. Donc,
ah oui.
Oui, on remplit bien le calendrier. Parfois même, en fait, sans trop regarder ce qu'on va aller voir.
Et, la surprise.
Exactement, la surprise. Moi, j'ai fait pendant longtemps rempli mon agenda juste en voyant ce qui s'enchaîne. Et puis, en gardant la surprise. Bon, petit à petit, je commence à faire un peu de tri parce que des fois, il y a des choses que je ne sais qui ne pourront pas coller chez moi. Mais voilà, donc on voit beaucoup de spectacles, on s'imprègne, on discute avec les collègues aussi parce que c'est la force du réseau, c'est de pouvoir échanger. Donc voilà, des fois, on n'est pas d'accord et c'est chouette. C'est ce qui rend le truc vivant. Mais oui, voilà, on voit, on discute. Et après, ça mature un petit peu tout ça, et puis on prend le temps aussi d'étudier les conditions, évidemment.
Et ce qu'on voit dans cette 34e édition du Chaînon, ça arrivera certainement dans la saison 2026-2027
oui,
de ta programmation.
Voire même plus tard, parce qu'il y a des spectacles qui continuent de tourner, ouais. qui continuent d'être dans le catalogue des saisons après. Donc quand on n'arrive pas tous à voir le spectacle, parce qu'il y a des spectacles qui sont très demandés, et ben ça suit sur les saisons d'après.
Et pour nous donner un indicateur pour auditeurs, auditrices, combien de pourcentage environ de programmation chez nous on retrouve chez vous?
Ah, c'est difficile à dire, j'ai jamais fait un pourcentage, mais en général chez nous, alors en plus on programme dans le cadre du prologue, donc on a forcément au moins un spectacle dans ce cadre-là, mais je dirais que j'en ai entre 3 et 5-6 spectacles sur une vingtaine, donc
ah oui.
voilà. On est pas mal.
Oui, on est pas mal, ouais. oui.
Ouais, non, juste comment on sélectionne un spectacle? Est-ce que du coup il y a un travail qui est fait aussi avec le public? Enfin voilà, comment on... Je me dis que c'est peut-être compliqué, mais voilà, comment ouais. on a ce regard-là et
bah on a plusieurs prismes qui ouais. nous permettent de choisir un spectacle. D'abord, le nôtre, qui est assez subjectif finalement.
Ouais, on est d'accord.
Il faut garder ça à l'esprit. On a quand
même. Vous avez carte blanche ou
On a carte blanche, ouais, encore. Ouais. Après, on a des contraintes financières, techniques, ouais. selon les lieux, selon les salles. Moi, je programme sur une communauté de communes, donc on a une salle équipée, mais toute une myriade de salles des fêtes, etc. Donc, on essaye de trouver des choses tout terrain. Et après, on a nos envies à nous de qu'est-ce qu'on a envie de partager. Il y a un côté équilibre des disciplines.
Ouais,
nous, on a une saison pluridisciplinaire, donc on essaye de trouver l'équilibre entre tout ça. Et puis après, il y a tous les partenariats, le travail de médiation qu'on fait avec les scolaires, avec les groupes, avec des publics spécifiques qu'on a envie de toucher, qui sont un peu la partie immergée de l'iceberg, mais qui représentent un gros volet. Et donc tout ça, ça créer une sorte de cahier des charges ou un canevas de base qui permet après de piocher, de trouver ah bah ça va correspondre à tel projet, je le vois bien là-bas, je le vois bien comme ça, je le vois bien comme ça, mais ça reste toujours des spectacles que j'ai vus et que j'ai aimés.
C'est ça, mais ça c'est important.
C'est important.
C'est essentiel.
Bruno, bien d'accord. Bruno, il y a des spectacles que tu découvres aussi cette semaine. Là t'es dans la découverte.
Absolument.
Ouais. Et alors, absolument. Le but, c'est de ramener des compagnies européennes vers le Canada, ou c'est l'inverse, ou les deux,
c'est
finalement?
Surtout l'inverse.
C'est
hein,
surtout l'inverse.
Dans mon rôle. Mais par contre, cela dit, il y a des gens de ce qu'on appelle Rideau, qui est un réseau de diffuseurs canadiens, québécois, qui sont ici. Il y a une dizaine de Québécois qui sont ici, et eux visent à la découverte et faire circuler des artistes vers le Canada.
Ouais.
Dans mon cas, c'est plutôt l'inverse. Donc, les artistes canadiens qui espèrent et qu'on croit qu'ils ont un potentiel pour une tournée en France.
Ok. Et est-ce que justement il y a une résonance sur cette tournée? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que du coup ils sont programmés, ces artistes qui viennent au Chaînon Manquant?
Vraiment. Vraiment. Ouais. Puis le réseau Chaînon est un vrai beau réseau pour ça. Essentiellement, je voyais que vous étiez avec Kevin et Florence auparavant. Vous connaissez bien le réseau, mais essentiellement, ce sont des salles plus disciplinaires de 200 à 500-600 personnes. Et donc, ils s'apprêtent très bien à ce que nous, on propose ici vers le Chaînon. On essaie vraiment d'avoir... Il y a 4 artistes cette année, canadiens. Okay. Et on essaie vraiment qu'il y ait, qu'ils soient très différents l'un de l'autre. Alors, pour plaire, bref, au style, aux enjeux financiers, aux enjeux de public, chacune de ces salles françaises, membres du réseau, ont leur particularité de public. Alors, donc, cette sensibilité-là peut faire en sorte qu'il y a un penchant vers un artiste plus que vers un autre. Et bref, on y va de cette façon-là.
Est-ce que tu ressens une manière différente de travailler, que ce soit du point de vue artistique ou d'un point de vue professionnel, de programmateur, entre le Canada et la France? Et si oui, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent en France?
En fait, je vous dirais la plus grande différence. Évidemment, j'ai un accent, là, vos auditeurs l'entendent très bien présentement, mais on parle la même langue et on se comprend. Mm-hmm. Mais il y a de grandes différences culturelles.
Ouais.
La sensibilité artistique et la sensibilité du public également est très différente. C'est pour ça que moi, dans mon cas qui est l'antenne, c'est pas moi qui choisis systématiquement et unilatéralement les artistes qui viendront ici. Donc, on travaille avec cette sensibilité-là du comité, comme je vous disais, du comité de sélection, Kevin Douvillez. Alors, on essaie d'arrimer, de trouver des projets qui peuvent, on croit ou on espère, pourront plaire au public français.
Et s'adapter à cette sensibilité française, en tout cas. Ouais.
Tout à fait, tout à fait. Puis parfois, c'est ce qui rend ça très intéressant, je crois, cette différence-là rend ça très intéressant, je crois, pour le public français.
Camille, est-ce que c'est une possibilité d'avoir une compagnie canadienne, américaine?
Oui, carrément. Et c'est encore une fois la force du Chaînon de nous permettre justement d'avoir des artistes internationaux qu'on n'aurait pas l'occasion de repérer ailleurs, en fait. Parce que il y a un gros voyage. On a l'habitude de voir des Belges ou des Espagnols qui sont aussi présents au Chaînon, et ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que des artistes canadiens, ça se fait beaucoup plus rare chez nous. Donc, c'est une porte ouverte et une opportunité assez immense, en fait.
Bruno, tu pourrais nous donner un nombre à peu près de compagnies que tu as réussi à faire venir en France pour se produire?
C'est à peu près 3 ou 4 projets canadiens. Et moi, je le fais depuis 10 ans.
D'accord.
Donc, 30. Mais il y a des artistes, écoutez, récemment, je le nomme parce qu'il tourne présentement, il y a un Étienne Fletcher qui a vraiment fait un carton ici. Il y a eu quand même une 20aine de dates suite à une vitrine ici au Chaînon. Il y a un Thomas Hellman, il y a quelques années, je crois qu'il y a eu 30 dates. Alors, c'est vraiment... c'est important pour eux en même temps. Ce sont des tournées conséquentes dans un calendrier avec un... Évidemment, la France, c'est un grand territoire aussi, alors donc qui est coordonné par le Chaînon.
Ouais.
Les tournées sont montées intelligemment, ne serait-ce que géographiquement, pour les transports.
Et ces artistes, du coup, est-ce qu'ils reviennent ensuite en France? Est-ce qu'ils se font un réseau un petit peu en allant jouer dans ces salles? Et est-ce qu'ils reviennent par eux-mêmes ensuite jouer?
Tout à fait. Ouais. Je vous dis, ça crée une base extraordinaire pour eux. Et ensuite, les chiffres que j'ai évoqués, c'est la première année. Et ensuite, comme tu l'évoquais, il y a des programmateurs, ça ne rentrait pas dans la programmation pour l'année 1, mais effectivement, il y a eu un coup de cœur. Puis l'année 2, ils peuvent revenir par la suite.
Avec vos yeux de programmateur, programmatrice, est-ce que vous pouvez donner un conseil à des jeunes compagnies pour se faire repérer? Ça serait quoi le petit plus pour taper dans l'œil?
Au Chaînon. C'est difficile parce que oui, on va voir beaucoup de choses, donc faut tomber dans les bons moments. Et en fait, ce qu'il y a de riche aussi au Chaînon, c'est que je le disais, on n'a pas tous le même avis, donc en fin de compte c'est un réseau qui est tellement énorme de nombre de programmateurs, c'est rare que les compagnies reviennent avec pas grand chose. Alors le seul conseil, c'est, mais ils choisissent pas, c'est effectivement il y a des jours de programmation, c'est plus compliqué le week-end où les programmateurs sont partis souvent. Mais ça, malheureusement, c'est pas eux qui décident. Taper dans l'œil, non, je sais pas, t'as une idée?
En fait, le conseil que je donnerais, c'est d'être soi-même.
Être soi-même,
d'être vrai. Puis ces considérations-là, oui, à un moment donné, on peut y réfléchir, mais en même temps, le plus important pour qu'on soit en ligne avec qui on est vraiment comme humain, c'est d'être soi-même. Puis le plus on est conséquent entre l'humain qu'on est et l'identité artistique ou le projet qu'on développe, ben je pense que c'est un ingrédient essentiel à disons, un rayonnement par la suite.
Les artistes qu'on a souvent vu passer ici à l'Autre Radio nous disent que c'est un moment important dans notre carrière de faire le chaînon parce qu'effectivement, ça peut déclencher plein de choses, ça peut nous apporter 50 dates derrière et après, c'est l'effet un peu boule de neige sur d'autres créations. Est-ce que vous prenez un petit peu en compte ce... Parce qu'ils nous disent souvent, avant de monter sur scène, c'est, on a une vraie pression. On sait qu'on a une salle de programmateurs, ce qui n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant un public habituel. Est-ce que vous prenez aussi en compte un petit peu ça, le fait de se dire, bah, en fait, on est dans une salle, on est 200 programmateurs, quoi, ou 100 pro. Est-ce que ça, vous le prenez un petit peu en compte?
Oui, bah, on est bien conscient de tout ça. On sait pertinemment la pression que les artistes se mettent pour cet événement. Et en fait, avec raison, on s'imagine, nous, on a la bonne place, en fait. C'est facile pour nous. Mais oui, c'est difficile. En même temps, je pense que si, comme le disait Bruno, s'ils croient en ce qu'ils font et qu'ils sont convaincus, bon, bah, le regard d'un programmateur, ma foi, c'est qu'un regard. Et ça ne veut pas dire que derrière, il ne se passera rien. Mais oui, on l'a en tête. Après, voilà, faut quand même faire des choix.
Est-ce que vous en profitez pour échanger avec eux, peut-être? J'imagine que vous enchaînez pas mal les spectacles. Mais est-ce que des fois, vous prenez le temps d'aller voir une compagnie pour échanger? Parce qu'à la limite, ça peut être l'occasion aussi.
Tout à fait. Ouais. À ce moment même, j'ai croisé des artistes canadiens. Puis ils sont en train de fraterniser. Les rencontres se font dans les moments off, si on veut, parfois autour de l'apéro. Et je crois que plusieurs artistes se mêlent à...
C'est la force d'un réseau aussi, ça, en fait. J'imagine que c'est aussi la force du chaînon.
Ouais. Tout à fait.
Et est-ce que vous avez une tendance actuelle depuis ces dernières éditions de chaînon sur une nouvelle forme d'artistique? Est-ce qu'il y a une tendance qui arrive dans votre programmation peu à peu, qui vient du Canada ou qui vient du local?
Alors, je crois que sur les disciplines, ça reste assez stable depuis un moment.
C'est assez stable.
Hein. Après, souvent, ce qui ressort, c'est des sujets.
OK, les sujets, le fond.
Ça arrive que... Mais comme au Festival d'Avignon, en fait. Il y a des années où on sait que... Enfin, où on voit, en tout cas, qu'il y a un sujet qui est prégnant et qui se retrouve dans pas mal de spectacles. C'est plus ça que sur les formes artistiques où on peut toujours être surpris ou voir des formes plus classiques. Mais,
On va recevoir notamment Adèle Franz qui... Elle a un sujet autour notamment de l'écoféminisme et revendique en effet une vision politique dans son spectacle. Bruno, tu partages un peu le point de vue de Camille sur l'émergence de nouveaux sujets qui commencent à être saisis par les artistes?
Clairement, il s'en passe des choses, hein. Et pas juste des belles. Et puis les artistes, souvent, c'est un moteur, c'est un vecteur de communication d'un état des choses. Puis effectivement, on voit certains sujets qui font... qui sont sujets à des créations artistiques, effectivement.
Pour conclure cette partie, François, je vous propose à tous les deux de vous poser une question mutuelle. Bruno, est-ce que tu aurais une question à poser à Camille en tant que programmatrice des Pays de Cran? Qu'est-ce que ça t'inspire, sa fonction? Et
Camille, inversement, une question à Bruno.
Je serais porté à lui demander si elle viendra voir les artistes canadiens et si elle aura l'intention de les programmer.
Bonne question.
Alors Camille, la réponse.
Alors honnêtement, comme je ne regarde pas tout ce que je vais voir, c'est possible, sans doute. Il faut que tu me redonnes la liste. Mais oui, je pense que je dois avoir un ou deux artistes canadiens dans le lot.
Et Camille, ta question pour Bruno.
Ma question, c'est quoi ton meilleur souvenir du chaînon?
Ah, il y en a plusieurs.
Le meilleur souvenir du chaînon, Bruno.
Le meilleur souvenir du chaînon. Mais écoute, moi je pense que c'est plus global. On dirait que mon cerveau n'allait pas vers le doux, mon silence n'allait pas vers quelque chose de spécifique. Mais ce festival est vraiment unique. Il est unique de par cette convivialité-là. Les gens s'y retrouvent. Puis on le voit, les entre-programmateurs également. Ces gens-là font le même métier, ils font partie d'un réseau, mais ils ne se côtoient pas à tous les jours. Alors, donc, il y a vraiment une énergie positive au chaînon manquant.
Est-ce que vous en profitez, petite question, pour faire la fête aussi, quand même, un petit peu, entre programmateurs? Pas du tout.
Pas moi du tout.
Non, pas du tout.
C'est pas le Festival de Cannes. On va être avec un Canadien, justement, dans cette pause musicale, c'est Pontex, qui est programmé ce soir au 6 par 4 dans le cadre du chaînon manquant avec son titre Le Canadien errant, et on revient pour la suite de cette émission. On est ensemble jusqu'à 20h30. On va recevoir les artistes Adèle Franz et l'atelier de la Colline qui nous viennent de Belgique.
Exactement.
Dans les mailles, on m'en donne.
Toujours en direct, il est 20h13 sur l'autre radio, sur le 101.7 à Laval, sur le 107.9 à Château-Gontier dans le sud de la Mayenne, et puis sur le DAB+, depuis quelques jours, vous pouvez nous écouter avec une super qualité d'écoute dans vos voitures et sur votre autoradio équipée du DAB.
Exactement.
François, on est toujours en direct du 40, du coup, pour cette émission spéciale.
Ça passe trop vite.
En cette deuxième journée. Oui, ça va hyper vite.
L'année prochaine, on demande 2 heures.
On demande 2 heures l'année prochaine, carrément, et on va jusqu'à 21h30. Et on entame une dernière partie artistique, cette dernière partie, avec 3 artistes au féminin. Adèle France, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Oui, ça va très bien.
Ouais, ce début de festival démarre bien, c'est bientôt que tu joues
dimanche.
Dimanche.
Je suis la dernière, je vais passer en dernier.
Tu clôtures.
Ouais, c'est ça.
Oui, on garde le meilleur pour la fin.
C'est ce qu'on dit, exactement.
Et avec toi, Odile Julmeau, je vais y arriver, Odile Julmeau et Zoé Naïve.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Vous êtes de la compagnie
Les Ateliers de la Colline.
Les Ateliers de la Colline qui présentent le spectacle La Chute.
La Chute, c'est ça, oui.
Merci à vous trois d'être avec nous. On entame donc une dernière partie qui était évidente forcément sur cette émission spéciale chez nous, autour de l'artistique. Adèle, est-ce que tu pourrais nous pitcher un petit peu ta pièce Radio Reclaim ?
Radio Reclaim, justement, c'est une émission radio. Et donc, c'est toute l'émission en passant par les interviewés, les pubs, les chansons, les auditrices et les auditeurs qui appellent. Et je m'amuse à passer d'un personnage à l'autre Et voilà, c'est jubilatoire pour moi et j'espère pour le public aussi.
12 personnages sur scène, c'est ça?
J'ai pas compté, mais peut-être quelqu'un s'est amusé à compter. Du coup,
a priori, j'ai lu ça, donc quelqu'un s'est amusé à compter. Voilà.
Oui, pense,
comment est née cette idée-là de ce spectacle?
Parce que je pense que j'avais envie de... l'émission radio, c'est vraiment le fil rouge.
Ouais.
Et après, c'est plein de petites pastilles, de petites formes différentes. J'avais envie déjà de passer... du chant à une interview un peu plus philosophique, et j'avais plein de thèmes différents que je voulais aborder, et justement je trouve que l'émission radio permet ça.
T'en as fait de la radio?
Ouais, ça va être ma question. Ouais.
Non, j'ai jamais fait de radio, mais je me suis dit je pense que j'aurais bien aimé faire ça dans ma vie, et c'est pas trop tard. Mais...
Et en même temps, t'as raison, c'est un super outil, un super format pour aborder tous ces thèmes. Comment c'est venu, du coup, cette forme un peu hybride, quand même, de spectacle?
Je sais pas. Je pense que...
T'as ajouté des choses au fur et à mesure.
Oui, j'avais des bribes éparses de choses, comme un peu des pastilles, et un jour, j'ai eu une révélation, je me suis dit, ça pourrait être une émission radio. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça que c'est né.
Ça arrive à quel moment? T'avais déjà d'autres créations avant, ou c'est une première création? C'est ça,
oui,
situe c'est comment dans ton parcours?
Oui, c'est la première fois que j'écris un spectacle de A à Z.
D'accord.
Je suis aidée évidemment à la, à la dramaturgie. Et,
autrice et sur scène.
Oui, par contre, j'ai été aidée à la dramaturgie, donc vraiment pour mettre en forme l'histoire, quelles paroles porte quel personnage. Ça, c'était important de préciser tout ça. Et donc j'ai été aidée par Luigi Thierry, qui est aussi le co-directeur de la compagnie, et qui m'a aussi mis en scène.
Ton parcours rapidement d'autrice ou de comédienne, enfin en quelques mots
Autrice, j'avais rien écrit avant.
Okay.
J'ai toujours écrit un petit peu, mais c'était toujours pour moi. Et puis comédienne, j'ai commencé par une formation de clown, Comédia dell'arte. Et puis après, j'ai fait un peu mon petit chemin autodidacte. Voilà, j'ai rencontré des gens, puis j'ai commencé à travailler. Donc c'est là qu'on commence à apprendre vraiment ce que c'est que de se retrouver devant le public. Donc voilà.
Et pourquoi cette pièce, du coup, s'appelle Reclaim?
Parce que ça part d'un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Reclaim, recueil de textes écoféministes de Emily H. Et il m'a beaucoup marqué. Du coup, Reclaim, ça vient de l'anglais.
Ouais.
Et ça a été d'abord...
Revendiqué,
ouais. Se réapproprier aussi.
Se réapproprier.
Et c'était d'abord les écologistes dans les années 70 qui disaient se réapproprier la terre et les champs, reclaim the fields. Voilà. Et ensuite, ça a été repris par les féministes, pareil dans les années 70, pour se réapproprier leur corps. Donc là, elles disaient aussi reclaim our bodies. Donc là, vous allez aux USA, je pense que reclaim, c'est très, très, très. Dans les manifs.
On peut le dire, dimanche, ce que tu nous proposes, c'est un spectacle politique, il y a une vision.
Oui,
ouais.
Je pense que c'est assez politique. C'est, je pense, le pendant de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on peut, facilement se laisser abattre par tout ce qui se passe, et l'idée, c'est de continuer à s'émerveiller, quoi qu'il arrive. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du politique là-dedans.
Elle est née quand, cet engagement? Il est né comment? Naturellement
Cet engagement, je pense que j'ai ma...
Quand on est artiste, on est engagé? Question philosophique.
Je suis pas sûr. Est-ce qu'on est engagé?
Oui, vous me faites si.
Engagé.
Vous me faites
en
oui.
fait, je pense que chacun a sa définition du mot, engagé. Je crois que entre militantisme, engagement, moi je m'y perds un peu. Mais
Comment le public accueille ça d'ailleurs? Ton spectacle, comment il est accueilli?
Je pense qu'il y a. On me dit. Je pense qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde, de tous les bords politiques. Je pense que les gens ils trouvent de quoi se reconnaître.
Ouais.
Parce que j'aime bien aussi les paradoxes, le fait de d'avoir plusieurs points de vue qui se frottent et qui sont à l'image aussi de ce qui se passe en moi. Donc,
il tourne depuis combien de temps, le spectacle?
Il a été créé juste après le Covid.
Okay.
Et donc du coup il se transforme à chaque fois, il évolue tout le temps.
C'est plus du tout le même de 2021?
Non, plus du tout le même. Justement, c'est ce qui est ça qui est bien, c'est qu'en ayant des petites pastilles ou des je peux changer
la forme, en tout cas permet ça, quoi.
Oui, la forme permet ça.
Odile, Odile et Zoé, vous êtes aussi avec nous. Adèle, on reviendra vers toi, on fera des questions croisées tous ensemble. Vous venez nous présenter du coup la pièce La Chute.
Engagée aussi.
Si on doit la pitcher, c'est la mythologie grecque, ça part d'Icare à la base. Ah pardon, je te remets ton micro, excuse-moi. Vas-y. Adèle, est-ce que tu peux passer le micro à Odile. Merci.
Le spectacle part plutôt ça parle évidemment de la chute d'Icare, du mythe, et aussi d'un tableau de Bruegel, qui est un peintre belge du XVIe siècle, qui a peint ce mythe, qui est un paysage en bord de mer, où tout a l'air très tranquille. Il y a un laboureur qui travaille sa terre, il y a un berger qui regarde le ciel, et en bas du tableau il y a Icare qui se noie et il y a personne qui...
Tu peux nous rappeler ce mythe en quelques mots?
Et donc Icare, c'est le fils de Dédale, qui est un grand inventeur et qui a dû bouger,
qui était coincé?
Pardon?
Qui s'est retrouvé coincé dans un labyrinthe?
Ils se sont retrouvés coincés dans un labyrinthe, et pour s'échapper, en fait, Dédale a créé des ailes, en fait, avec les plumes qui tombaient du labyrinthe, et ils se sont échappés du labyrinthe. Sauf qu'il s'est approché trop près du soleil, et donc ses ailes ont brûlé. Donc Icare s'est rapproché trop près du soleil, ses ailes ont brûlé, et il se noie.
Donc, d'où l'expression attention, voilà. De ne pas brûler tes ailes.
C'est le point de départ du coup, ce tableau, c'est ça? Vous partez de...
On part du tableau, et après c'est deux oiseaux qui découvrent ce tableau et qui s'étonnent que personne ne s'émeuve de la mort d'Icare, et décident de reconstruire le mythe, de re-raconter le mythe différemment.
Ok, donc vous réinventez le mythe.
Odile, comment tu te l'es approprié, ce mythe? En quoi il résonne pour toi?
À différents endroits, mais d'abord c'est un spectacle qui s'adresse à toutes et tous à partir de 9 ans, donc ça veut dire qu'on s'adresse aussi à des enfants, et ça nous paraissait important de pouvoir leur véhiculer une autre morale que celui du mythe originel, de leur dire aussi non, tout envol n'est pas voué nécessairement à une chute, et envolez-vous, et il y a plein d'espoir à avoir aussi. Et Icare, ça devient une petite fille dans notre spectacle, et qui est pleine d'imagination, de ressources, d'invention, et qui va s'envoler.
Parce que la morale à la base, c'était attention, ne soyez pas trop ambitieux,
voilà.
Il va vous arriver des malheurs. Là, vous dites non, soyez ambitieux.
Oui, allez-y, osez. Et en fait, on est ensemble et on va y arriver. Quoi.
Vous travaillez avec le jeune public régulièrement, ou c'est, comme vous dites, à partir d'avant, ça fait partie du travail de la compagnie d'aller vers le jeune public?
Oui, ça fait partie de l'ADN vraiment des ateliers de la colline, c'est-à-dire qu'on va créer à partir des ateliers qu'on mène en école.
C'est une compagnie jeune public en fait.
D'accord, ok. Peut-être qu'on peut avoir juste une petite histoire, un peu la compagnie.
Sur
les ateliers de la colline.
Les ateliers de la colline, c'est une compagnie qui existe depuis plus de 40 ans. Donc Zoé et moi n'étaient pas dans les fondatrices des ateliers de la colline.
Oui.
Qui est née à Sorin, donc c'est vraiment une banlieue industrielle aux alentours de Liège en Belgique, et qui s'adressait en priorité au départ aux enfants qui suivaient des ateliers de théâtre-action. Donc qui s'adressait à des enfants, des adolescents qui a priori n'avaient pas ou peu accès à l'art et à la culture. Et c'est resté vraiment dans l'ADN des ateliers de la colline de s'adresser et de faire du théâtre avec les enfants, les ados qui a priori sont plutôt éloignés de la culture.
Donc là, il est né des ateliers, ce spectacle. Il est né de co-création.
Oui, c'est vrai. En fait, on a commencé le spectacle par une semaine de stage avec des enfants. Et du coup, on a fait une semaine de stage. On a été voir le tableau à Bruxelles, donc il y avait tout le déplacement.
Génial.
Voir aussi comment la vision du tableau résonnait avec eux.
Vous venez de Belgique. Vous êtes une compagnie belge.
Voilà. De Sorin. La compagnie est basée à Sorin, donc c'est sa banlieue Liège. Et oui, donc le spectacle a démarré avec ce moment avec les enfants, même s'il y avait une idée de base et un désir à la base. Mais, oui.
Mais toutes vos créations partent en tout cas d'ateliers avec les enfants ou avec des adolescents. C'est vraiment l'ADN en tout cas de la compagnie, c'est ça, si je comprends bien.
Oui, tout à fait.
Donc, okay. Qui sont vos partenaires, les écoles, les maisons de quartier, comment vous travaillez?
Je trouve ça épatant.
Oui, à la fois en effet des écoles, donc autant primaires que secondaires, et puis on va aussi travailler avec des écoles de devoirs. On a déjà travaillé avec des enfants qui étaient placés en institution Voilà, y a différents endroits où on va pouvoir aller à la rencontre des enfants, principalement quand même dans le réseau scolaire.
Et vous prenez cette matière que vous travaillez avec les enfants, c'est ça? Pour en faire vous après un spectacle, vous allez jouer sur scène, c'est...
Bah, ça c'est se passe parfois par... Oui, ça se passe souvent comme ça. Et puis il y a aussi tous les artistes de la compagnie travaillent dans les écoles en fait pour faire des ateliers de création dans les écoles. Et, okay. et ça, il y a des partenaires culturels, des centres culturels. Donc les enfants vont présenter leur spectacle dans le centre culturel. Donc c'est aussi super d'avoir des conditions pro pour les enfants. Ils le montrent aussi avec tous les autres ateliers. Et donc ça fait un mini festival en fin d'année.
Ça crée des vocations.
Bah, en tout cas, je sais pas, j'ai pas suivi le parcours. On n'a pas forcément.
Vous n'êtes pas issu des ateliers de la colline, non? Vous n'avez pas fait vous les ateliers étant plus jeune?
Non. Et puis okay. j'ai pas grandi à Serein.
Ok,
non.
D'accord.
Il y a le rôle des costumes aussi qui est très présent et des décors dans votre pièce La Chute. Comment on joue avec ça quand on a un costume sur soi? Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes les deux votre rôle à l'intérieur de cette pièce?
Eh bien, moi, j'ai mis en scène le spectacle. Et je joue maintenant, c'est ma première demain en fait, parce qu'on est en train de créer une équipe supplémentaire.
D'accord.
Et donc je reprends le rôle avec une autre camarade qui m'a aidé à la mise en scène aussi. Bref.
Petite question à vous trois, on en parle souvent avec l'artiste qu'on croise, le chaînon c'est une étape importante, souvent on le dit dans une carrière d'artiste, parce qu'en fait voilà, il y a 250 programmateurs, nous disait Kevin tout à l'heure, voilà, comment on prépare ce moment-là, le fait peut-être de jouer une première fois sur scène? Alors, c'est pas pour mettre la pression du tout, mais juste, voilà, j'imagine que c'est des choses qui sont un petit plus, c'est pas un public habituel, ce sont des programmateurs dans une salle, comment on l'appréhende et comment on se prépare avant tout peut-être à ça?
Moi, je crois que je suis un peu dans une situation particulière aussi, que je reprends le rôle et donc je suis un peu plus dans mes repères. Enfin, je suis plus concentrée sur le récit, mais je pense que c'est une bonne façon de se préparer, en fait, d'être concentrée sur l'histoire qu'on porte. J'ai envie de dire peu importe le public, mais évidemment, ça joue et il y a des stress qui sont différents. Mais,
oui. Odile, pour toi, le track est différent? C'est surtout l'oreille du public? T'es attentive à ça, j'imagine, à la réaction?
Oui, après honnêtement je pense qu'il n'y a pas de public plus intransigeant qu'un enfant de 9 ans, donc
oui. Oui, c'est vrai, on est d'accord.
C'est un autre endroit, mais je dirais pas qu'il y a plus de stress.
Et Adèle, toi tu es comment à quelques jours de...
À la maison en plus.
À la maison.
Oui, bah, ça m'aide vachement ce que vous dites les filles. Déjà je pense que ce qui est bien, de se reconnecter à ce qu'on porte comme parole et comme histoire, et qu'est-ce qu'on veut faire passer avant tout. Se reconnecter à ce qui est intime pour nous dans ce qu'on veut raconter. Et ce que disait le programmateur juste avant, que j'ai entendu dire, de rester authentique, enfin, je ne sais plus comment il a dit ça, mais
ouais,
plus important, c'est de rester soi, quoi. Ça m'aide. Et après, moi, c'est un peu particulier parce que je vais jouer dimanche. Et dans le public, il y aura plus de Lavallois et de Lavalloises que de programmateurs
ouais,
qui seront
oui.
déjà
oui, qui sont...
rentrés. En tout cas, il y aura des programmateurs peut-être plus locaux.
Ouais.
Et donc, moi, je m'en tiens à ça aussi. Je me dis, bon, en fait, c'est un public.
Ça enlève un peu de track. Ça enlève un peu.
Oui, je pense que ça.
Ouais.
Ça enlève un
on,
peu.
Ouais, on est moins jugé par ses pairs, quoi.
Oui,
il y a un peu
sûr.
De. Ouais.
Mais c'est un peu particulier.
C'est un peu particulier, j'imagine. On arrive bientôt au terme de cette émission. Une question avant de vous laisser la main, parce qu'on finit chaque partie avec vos questions que vous avez envie de poser à l'une et l'autre. Comment ça se passe, vous, en tant qu'artiste, cette expérience du chaînon manquant, en tant que festivalier artiste, comment ça se passe cette semaine pour vous? Ça a démarré hier, vous êtes imprégné dans les lieux. Comment ça se déroule? Comment vous vivez l'atmosphère?
Est-ce que vous allez voir des spectacles déjà?
Moi je suis arrivée tout à l'heure, donc on a démarré ce matin,
première journée,
et on a posé nos valises et on est arrivé ici, et donc là il y a une chouette ambiance, et je sais pas encore si on va, j'espère voir des spectacles. Oui.
Super. Adèle,
moi j'en profite à fond, j'ai déjà vu quelques spectacles.
Toi t'es la locale de l'étape, tu connaissais déjà bien le chaînon?
Bah oui, puis le fait d'habiter à côté c'est tout bénéf.
Il y a une effervescence particulière.
Oui, même dans les rues on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis j'attends les spectacles dehors aussi, donc Fantôme je crois.
Fantôme, ouais. Il sera le point culminant, le grand pari du chaînon cette année.
Oui, voilà. Bah, donc j'attends ça.
On rappelle Pierre, hein, peut-être où jouent les artistes.
Oui,
du coup,
très bien, merci.
Tu joues donc au 40 à 18h15 dimanche.
Oui, c'est ça.
Voilà, pour clôturer, on le disait tout à l'heure, le festival. Et bien sûr, on trouve les ateliers de la colline au théâtre Jean Massé, tout près d'ici d'ailleurs. Deux fois, 9h et 14h, demain, c'est jeudi. Ça.
Dernière question, Adèle, est-ce que tu as une question pour l'équipe de la colline des ateliers ? Les ateliers de la colline, pardon.
Et ben, je voulais vous demander, à votre avis, qu'est-ce que ça apporte aux enfants de travailler avec eux, de travailler dans le théâtre avec eux, de leur faire découvrir le théâtre aussi de temps en temps ? Qu'est-ce que vous pensez que ça leur apporte ?
Moi, j'ai l'impression aussi que ce qui est chouette, c'est qu'on vient dans leur espace. Enfin, on vient dans l'école et en fait, on vient aussi un peu bousculer les codes de l'école. Et il y a quand même, je trouve qu'à la fin de chaque atelier, il y a un phénomène de groupe qui se passe. Et rien que pour ça, on s'est livré, quoi. Il y a un peu d'intime qui s'est passé. Je dirais ça.
Odile, tu partages ?
Oui, complètement. Je dirais que ça donne du crédit à leurs paroles aussi. C'est important ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont à dire et de le porter vers un public, c'est important.
Ouais. Et ben, vous pouvez garder le micro, Odile et Zoé, pour votre question à Adèle. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette rencontre ?
Oh, mais plein de choses, mais c'est dur.
Question, un petit...
Ah oui, ou un petit mot pour elle, peu importe.
Quel est ton imaginaire sur le théâtre belge ?
À ton imaginaire du théâtre belge.
Waouh. Vous avez deux
franchement,
heures.
Franchement, je ne sais pas. Quelle question. Moi, la Belgique, c'est plus Bruxelles, mais ça bouge à fond à Bruxelles. Mais du coup, j'aimerais bien voir comment ça bouge dans les endroits. Est-ce que c'est rural ? Serein ? C'est rural ? Un peu. Industriel,
ouais,
plus
industriel.
Que rural. Ouais. Bah, j'aimerais bien connaître mieux, en tout cas.
Bienvenue.
On doit rendre l'antenne.
Merci beaucoup,
mesdames.
Toutes et trois, merci beaucoup d'être venus sur l'antenne de l'autre radio. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, bon festival. Et surtout, bonne chance pour demain et pour dimanche. Et merci.
Merci, François.
Merci, Pierre. C'est un bonheur encore d'être avec toi et de présenter encore. J'ai dit encore. C'est-à-dire que c'est la première fois, mais je pense
qu'il y en aura d'autres.
Il y en aura d'autres.
Il y en aura d'autres. Merci, voilà. François. Vous retrouvez le chaînon manquant jusqu'à dimanche, en effet.
Exactement.
Et puis, l'autre radio continue toute la semaine avec notamment le rendez-vous de demain, 12h15, l'agité du local avec Margot. Bonne soirée sur l'autre radio.
Bonne soirée, à bientôt.
L'autre radio en direct du festival Le Chaînon Manquant. C'est de 19h30 à 20h30.